Radio G 101.5 FM. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur les ondes de Radio G au 101.5 FM à l'écoute de l'émission Radio Nippon, le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise. Laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres, un mardi sur deux à 13h. Aujourd'hui dans cet épisode de Radio Nippon, on commencera encore une fois par les actualités autour de la culture japonaise en Anjou et de ses environs. On accueillera d'ailleurs Quentin pour cette partie-là.
Bonjour.
On reviendra également sur les actualités passées et les retours d'expérience de ces 15 derniers jours, tout particulièrement sur la Manga Tech qui s'est déroulée le 2 décembre dernier, lundi soir. Nous continuerons avec David, puisque David vous l'avait promis, David vous l'a fait. Il a lu pour vous un des mangas de la sélection pour le prix Manga Lu. Il va donc vous donner tous les détails et vous donnera ses ressentis. Nicolas sera également de retour parmi nous.
Salut.
Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Nicolas ?
Je voulais vous faire une petite chronique sur les points communs qu'il y a entre la saga Star Wars et la culture japonaise en général.
C'est original.
Original et intéressant, oui.
Et d'actualité, pour le coup.
Oui, puisqu'avec le dernier film Star Wars qui sort.
Tout à fait.
Et enfin, on clôturera l'émission à nouveau avec l'histoire du Japon, puisque du coup, je reviens avec vous pour pouvoir en reparler et continuer un morceau de l'histoire du Japon, même si on va rentrer dans les aires ténébreuses de l'histoire. Bien entendu, nous retrouverons Victoria pour quelques pauses musicales, histoire d'agrémenter toujours et encore cette émission. Et tout de suite, retrouvons Quentin avec les actualités.
Bonjour tout le monde. On commence avec une sortie ciné. Le film Lupin Third, Le secret de Mamo, sera dans les salles à partir du 11 décembre. Une fois n'est pas coutume, assez peu de séances en France. Retrouvez-le à Paris, Lyon et Espalion. Et pour une séance à Nantes, le 12 à 19h45, en version originale.
Un peu de sous-titres ou pas du tout ?
Un peu de sous-titres. Enfin, normalement, c'est prévu sous-titré. En général, les versions originales sont sous-titrées quand même. Ils ont pitié de nous.
Sympa.
Et à Paris, le 12 décembre également, dans le cadre de son Nowhere European Tour 2019, le groupe de rock Mono se produira au Petit Bain à Paris.
Je te remercie, Quentin, pour ces actualités qui, du coup, bon, sont un peu restreintes, mais...
Il n'y a pas énormément de choses, c'est vrai.
Bon, faut dire qu'avec le Téléthon, en ce moment, il y a plus tout le monde sur le Téléthon que sur ça. Mais du coup, toi, il y a quelque chose qui t'intéresse sur les deux actus ? Il y en a une qui te tente plus que l'autre ?
Je serais bien allé voir le film, mais ça m'embête quand même d'aller à Nantes, malheureusement. Et... Bon, bah, ça, c'est toujours le problème, de toute façon, les films japonais qui sortent sont rarement diffusés en France.
Ouais,
après... Enfin, rarement diffusé. Bref, merde, je m'en fous.
Rarement diffusé dans les petites villes en fait.
Ouais, exactement.
Après, il faut quand même avouer qu'on a le 400 coups qui en fait pas mal.
Le 400 coups en fait pas mal, effectivement. Ils avaient sorti comme. Enfin, ils avaient sorti aussi. Aussi non. Ils avaient sorti A Silent Voice, que j'étais allé voir du coup. Et effectivement, ils font pas mal de sorties étrangères comme ça et c'est assez agréable.
Ouais. C'est le côté vachement pratique et vachement agréable des 400 coups. Mm. Et toi, Nicolas, si tu devais en dire une ? En choisir une ?
Peut-être le film aussi, mais je sais que ce mois-ci j'aurai le temps de rien, donc de toute façon je n'irai pas le voir. Mais ouais, si j'avais pu, je serais allé voir le film aussi, je pense.
Et donc maintenant on va pouvoir passer au retour sur les actualités passées. Vous étiez présent, vous, lors de la Manga Tech ce lundi 2 décembre ?
Tout à fait.
Et toi, Quentin, t'étais pas là ?
Et moi j'ai pas eu la chance d'y aller.
Ah, d'accord. Du coup, et toi, Nicolas, comment t'as trouvé l'ambiance et tout ça ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Et bah, vas-y, vends-nous du rêve.
Alors, vendre du rêve, ça va être compliqué, mais moi, j'ai trouvé ça très, bah, encore une fois, très sympathique. Hein. J'ai participé à chacune d'entre elles. Donc, c'est ambiance assez, je dirais, assez studieuse, puisque bon, forcément, c'est un petit peu le thème de la soirée. On a eu un peu plus de monde que lors des précédentes éditions, entre guillemets. Mm-hmm. Ce qui est logique, hein, vu que le bouche à oreille doit fonctionner.
Et comme quoi, ça doit être pas trop mal pour que le bouche à oreille fonctionne.
Et non, mais j'ai trouvé ça cool. Hein. Personnellement, j'ai surtout fait de l'origami, en fait. Parce que, bon, comme je t'avais déjà dit, Xavier, je comptais m'y mettre Et j'en parlais tout à l'heure et j'ai assez peu de temps pour moi finalement, surtout en ce moment, donc du coup je trouvais que c'était un bon créneau pour le faire.
D'accord, ok. Bon, bah écoute, faudra que tu nous montres alors tes superbes origamis que tu as pu faire parce que moi je suis bien intéressé. Surtout
J'espère bien
que
se moquer.
l'asso a toujours pour but et pour projet d'essayer d'envoyer la guirlande
Tout à fait,
de
c'est
grues
vrai.
origami. C'est à Fukushima si je me souviens bien.
Non, ça Hiroshima.
Oui, c'est à Hiroshima, pardon, excusez-moi. Puisque du coup, on a une membre qui est allée là-bas, qui a trouvé ça vachement touchant. Et donc, bah, à chaque fois qu'on a des ateliers origami, on les récupère pour pouvoir essayer de faire la grue, la ligne de grue origami à envoyer à Hiroshima. Bah, écoute, je te remercie.
Moi, je t'en prie.
Voilà, c'était tout pour les actualités passées. Et tout de suite, on va pouvoir retrouver David, qui, comme il vous l'avait promis, vous a lu un des mangas de la sélection Mangalu. Et donc du coup, va pouvoir donner tous ses ressentis et tous ses avis. Je t'en prie, David, c'est à toi.
Salut à tous, chers auditeurs. C'est David et c'est moi qui vais continuer l'émission avec une petite chronique manga. Lors de la dernière émission, j'ai présenté un événement angevin qui s'appelle le prix Mangalu, organisé par la librairie Azumanga. Donc, si vous ne connaissez pas cet événement, je vous invite à écouter la dernière émission en podcast sur le site de Radio G. Mais pour faire simple, le prix Mangalu, donc c'est un événement qui a pour but en fait de faire connaître les mangas, donc aux collégiens. Il y a eu un jury qui a sélectionné 9 mangas dans 3 catégories différentes, shoujo, seinen et shonen. Ces mangas voilà, sont mis à disposition dans différents collèges partenaires, mais aussi dans des bibliothèques. L'événement a commencé au mois d'octobre 2019 et finira en mars 2020. Donc les collégiens, pendant ces quelques mois, vont pouvoir lire les mangas et vont pouvoir choisir leur préféré, voter pour lui. Et à la fin voilà, du mois de mars, en fonction des votes, les mangas qui seront comment dire, promis, voilà, qui seront choisis, seront les mangas élus de cette sélection 2019-2020. Voilà un peu pour la présentation de l'événement. Et lors de la dernière émission, là, je vous proposais en fait, de parler à chaque émission de chaque manga en fait. Vous le présentez, pour ceux qui ne peuvent pas le lire, ça vous donnera peut-être justement l'envie d'aller plus loin et de découvrir ces mangas. Voilà, c'est le but. Donc on va commencer par la sélection, la catégorie shonen, avec un manga qui s'appelle Astra Lost in Space. Je vais vous lire un petit résumé du manga. En 2063, Kanata, Hari ainsi que 7 autres de leurs camarades débarquent sur une planète inconnue dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ par une étrange sphère d'énergie. Comment survivre, perdus au beau milieu de l'espace? Quelle est donc cette étrange sphère qui continue à les poursuivre? Autant de réponses à découvrir dans ce récit de survie haletant sur le fond de science-fiction et de mystère. Voilà un petit résumé. J'espère déjà que ça vous donne envie. Au niveau des détails du manga, donc, comme je disais, c'est un manga shonen qui est en 5 volumes, qui a été réalisé par le mangaka Shinohara Kenta aux éditions françaises Nobinobi. Voilà un petit peu pour ce qui est de la présentation et l'histoire. Moi personnellement, donc au niveau du manga déjà, au premier coup d'œil de ce manga, ça m'a tout fait, donc au niveau de la couverture, ça m'a tout de suite fait penser à Ulysse 31. Bon, c'est vrai que je suis pas un très grand lecteur de manga de science-fiction, mais au premier coup d'œil, ça m'a fait penser à ça. Moi, c'est la seule référence que j'ai, enfin, j'ai pas non plus beaucoup. Et en fait, bon, après à lire, ça n'a rien à voir, mais voilà le premier effet que j'ai vu. Pour faire une petite description du premier tome et de la couverture, on voit en premier plan l'un des héros principaux, on va dire, du manga qui est Kanata, qui sera promu capitaine, on va dire, du vaisseau. Et en second plan, on voit Ariès, qui est une autre personnage de l'équipage, qui est aussi l'une des premières protagonistes qu'on vous lit dans l'histoire. Et ensuite, en troisième plan, on voit le vaisseau sur lequel ils vont naviguer durant cette aventure, avec l'espace en fond qui recouvre l'avant et l'arrière du manga, avec après, bien sûr, un petit résumé, quelques petites images cases du manga. Au niveau de l'histoire, comme je vous dis, on rentre très vite dans l'histoire, ça se lit très très bien. Au niveau du dessin, c'est très très dynamique. C'est assez fluide, voilà, comme je vous dis, on a hâte, le premier tome, hein, se lit très très vite, et direct, voilà, on a différentes intrigues, c'est vraiment bien fait, le scénario, je vous dis, on a envie de vite lire les tomes suivants. Au niveau des personnages, voilà, donc, ils sont neuf, donc personnages complètement différents, on peut, voilà, se projeter dans différents personnages en fonction de notre caractère, et c'est vrai que il y a tout type, hein, de personnages, le scientifique, le sportif, la fille populaire du lycée, bon voilà, c'est assez drôle, un peu d'humour, un peu d'action, voilà, ça se mange bien. Voilà un petit peu pour la description, hein, assez positif, hein, de ma part, hein, je suis bon public, donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce manga. Voilà, en espérant que ça vous ait donné envie de le lire et d'en découvrir davantage, rendez-vous à la prochaine émission pour vous continuer à décrire la sélection Mangalu. A bientôt et je laisse la suite à mes petits camarades.
Merci David. Et pour cette première pause musicale, nous allons parler de Haruka Tomatsu, une seiyuu et chanteuse qui a su faire sa place dans le monde des animés depuis 2007. Avec de nombreux rôles à son compteur, vous avez déjà pu l'entendre dans Darling in the Franxx en tant que 02, dans Maggie avec le personnage de Morgiana, ou dans la série bien connue Sword Art Online, raccourci en SAO, avec Asuna. Elle est justement de nouveau sur le devant de la scène avec le nouvel opening de SAO, Alicization, War of Underworld, qui n'a rien à envier aux précédents openings, tous plus épiques les uns que les autres. Je vous propose donc d'écouter sans plus tarder Resolution par Haruka Tomatsu.
「答えは無謀じゃない完璧にすぐなったりしない」「描い
Je te remercie Victoria, c'était très sympa, ta pause musicale est toujours autant rafraîchissante. Du coup là tout de suite on va pouvoir retrouver Nicolas qui donc du coup voulait nous parler de Star Wars et de tous les impacts de la culture japonaise dans Star Wars.
Tout à fait.
Donc je t'en prie Nicolas, développe ton sujet, on est tous intéressés.
Comme nous l'évoquions tout à l'heure, le dernier opus d'une des plus grandes sagas cinématographiques sortira le 18 décembre en salle. Alors, je fais bien évidemment allusion à Star Wars 9, The Rise of the Skywalker. Vous devez vous demander, mais quel rapport avec le Japon ? J'y viens. Eh bien, sachez que George Lucas, l'homme qui a imaginé l'univers dans lequel prend place ce récit, a eu énormément de sources d'inspiration. La pop culture US, notamment les comics, la littérature, la SF, l'histoire, les cultures indiennes et chinoises, mais également, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la culture japonaise au sens large. D'une part, il a puisé une grande inspiration dans le cinéma nippon, particulièrement chez le réalisateur et scénariste Akira Kurosawa. Pour vous donner un exemple, je vais vous faire un petit synopsis de son film La forteresse cachée, sorti en 1958. C'est l'histoire d'une jeune princesse qui prend la fuite après la destruction de son clan. Elle est protégée par un samouraï, accompagné de deux acolytes servant de comic relief. Ça ne vous rappelle rien ?
L'histoire du 4.
Exactement. Il s'inspire d'autres films du même réalisateur pour la création de ses personnages, comme par exemple Les 7 Samouraïs, sorti en 1954. A noter qu'en retour, entre guillemets, Lucas aidera Kurosawa à financer son film Kamegusha, sorti en 1980. D'autre part, l'influence la plus flagrante de la culture nippone sur l'œuvre de Lucas est, de mon point de vue, vestimentaire. Le casque de Dark Vador, personnage iconique s'il en est l'exemple le plus emblématique. Celui-ci est tout droit inspiré du Kabuto, le casque traditionnel de l'armure japonaise employé par les samouraïs. Et afin de renforcer le caractère insensible du personnage, Lucas lui a rajouté un masque inspiré du Memepo, masque porté par les samouraïs de haut rang dont le but était de les protéger et de leur donner un air menaçant.
Et outre ça, si on doit reprendre la première trilogie, le Star Wars 1, 2, 3... actuel. Dans les comités de Jedi, ils sont quand même vachement habillés en tenue...
J'y venais. D'autres personnages sont également vêtus dans un style, je dirais, japonisant, entre guillemets. Les Jedi et les portent de longues tuniques croisées par devant, maintenues au milieu par une ceinture. Difficile de ne pas faire le rapprochement, comme tu disais tout à l'heure, avec les kimonos. On notera que ces derniers portent leur sabre à la ceinture, à la manière des samouraïs. Dans La Menace Fantôme, la reine Amidala porte une tenue qui renvoie directement aux costumes et maquillage du théâtre Kabuki. Et pour continuer dans le registre des similitudes tirées par les cheveux, la coiffe des femmes Jedi peut faire penser à celle de la princesse Chujo Hire. Je terminerai ma chronique en énumérant d'autres similitudes ou inspirations en vrac. Rian Johnson, réalisateur du 8e opus The Last Jedi, a révélé s'être également inspiré d'Akira Kurosawa, mais également du film Trois Samouraïs hors la loi de Hideo Gosha, notamment pour les combats de sabre laser. Et enfin, J.J. Abrams, de retour pour la réalisation du dernier opus, s'appuie sur le concept du kintsugi pour justifier le retour du casque de Kylo Ren. Le kintsugi est une méthode traditionnelle utilisée pour réparer les bols en céramique à l'aide d'une poudre dorée. L'objet garde ainsi une marque, un peu comme une cicatrice, quelque chose qui lui reste de sa vie passée après sa renaissance.
Bah, du coup, joli, très beau mot poétique pour terminer ta chronique.
Merci.
Bah écoute, on espère que malgré que tu vas garder les marques du passé, tu vas savoir renaître pour pouvoir nous faire encore des meilleures chroniques pour les prochains coups. Bien qu'elles soient très bien celles-ci, je t'en prie. Vous êtes toujours au 101.5 à l'écoute de l'émission Radio Nippon. Et tout de suite, on va se retrouver pour pouvoir continuer l'histoire du Japon. Pour mémoire, on s'était arrêté en 1333 où l'empereur Daigo Ni restaure le pouvoir impérial après avoir mis la ville de Kamakura à feu et à sang pour faire taire le Bakufu. Je précise que Daigo Ni, Ni signifie deux en japonais. Je vois dans la lueur de vos yeux que vous vous dites ça y est, il restaure le pouvoir impérial, la paix va revenir. Et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ?
La guerre.
Du coup, en effet, c'est la guerre. Mais pour développer un petit peu plus, moi je vais appeler ça carrément une descente aux enfers. Très exactement, l'ère, c'est l'ère des Ashigata. Ashigata étant le nom des futurs shoguns qui vont prendre la suite. Mais clairement, moi j'appelle ça une descente aux enfers, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment la guerre tout le temps. Mais bon, je vais quand même essayer de vous expliquer comment cette descente aux enfers s'est réalisée et comment ça s'est produit. En effet, même si Daigo Ni, l'empereur, a pu restaurer le pouvoir impérial, il faut se souvenir que Daigo Ni a pu s'échapper de l'attaque des Minamoto grâce à un Minamoto qui était dissident et qui s'appelle Ashigata Takaoji. Et de ce fait, par ses actes, il devient quand même le seigneur le plus puissant du Japon. Il retourne sa veste contre l'empereur en place, il instaure à nouveau un Bakufu, donc un gouvernement militaire autre que le shogun. Mais cette fois-ci, au lieu d'être à Kamakura, il l'installe à Kyoto. Et histoire de rajouter encore un peu plus, en 1338, il fait carrément nommer un empereur. Et l'empereur, en retour, le nomme shogun. Et on se retrouve du coup durant une période de 1338 à 1392 qui est appelée la période des deux cours. Parce que l'ancien empereur Daigo Ni a réussi à se réfugier dans les montagnes en embarquant sa cour avec lui. Le nouvel empereur nommé par le shogun, lui, se constitue une nouvelle cour et s'installe à Kyoto. Et donc on arrive dans une époque où il y a deux cours. Les deux cours veulent le pouvoir, ils vont avoir une lutte incessante de guerre et ainsi de suite. Du coup, ces deux cours vont se faire la guerre constamment, et même si ça va être sur des périodes relativement courtes, genre des petites guerres, elles vont vraiment être très 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 fortes. Et on arrive enfin à l'année 1392, et d'après vous, quel est le clan qui a réussi à remporter la partie ? C'est le clan des Ashigata qui gagne. Administrativement, il régit les territoires en trois grandes régions, gérées par un Kanrei, qui est en contact direct avec le shogun. Le but du jeu étant vraiment d'essayer de reprendre la main sur les territoires. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Parce qu'à tellement vouloir reprendre la main sur les territoires, s'ensuit une multitude de révoltes paysannes, de famines, d'épidémies, auxquels les seigneurs répondent très mal, prennent des mesures mais finalement aggravent le phénomène. Pire, les seigneurs vont même chercher à avoir des petites guerres de pouvoir et des petites guerres de territoire, parce que comme les grandes régions sont attribuées en grandes régions, les seigneurs à l'intérieur finalement c'est qu'un élément parmi les autres. Donc ils vont chercher à faire pas mal de petites guerres de pouvoir, voire même on en arrive à une absurdité complète puisqu'on finit même par avoir des petites guerres de plaisir. Un grand daimyo, il avait juste envie de faire la guerre. Allez, c'est parti, on va faire la guerre aux voisins d'à côté. Donc, on peut citer en 1467 jusqu'à 1477, il y a beaucoup de paysans qui, du coup, avec les famines, se retrouvent enrôlés dans les armées, qui se retrouvent à combattre pour ils ne savent pas quelle raison. Quitte à combattre, quand on a capturé un village, on va brigander un petit peu, on va les piller, on va les voler. Et donc on se retrouve avec un Japon complètement déstructuré et déconstruit. Malgré tout, faut quand même reconnaître que les Ashigata qui étaient au pouvoir avaient quand même, grâce à leur poste de shogun, un maintien d'un état central qui permet quand même de faire certains événements assez, assez forts, comme renouer des liens amicaux avec la Chine en 1400. Mais si je vous parle du shogun, vous devez vous deviner que ça va pas très bien se passer pour lui. Et on arrive en 1489, et là, est-ce que vous savez ce qui se passe ?
Évidemment, non.
Évidemment, il se fait assassiner. Et le problème, en fait, c'est que là, c'est même plus une descente aux enfers, puisqu'en fait, là, c'est fini, ils sont tombés en enfer. J'ai lu pas mal de sites, et il y a une phrase qui est souvent reprise, que je trouve très... Enfin, qui relate bien les choses, en fait, puisque le Japon devient, de fait, partagé entre une trentaine de daimyo, donc des grands seigneurs, et une bonne centaine de petits seigneurs qui se combattent sans répit, accompagnés par des paysans soldats qui ne respectent aucun code de l'honneur du samouraï. Du coup, c'est du brigandage à ne plus savoir qu'en faire, c'est de la guerre à ne plus savoir qu'en faire, et bah chacun est libre de faire un petit peu la guerre où il veut. Ça en est arrivé à un tel point que même les commerçants, les paysans et les artisans finissent par se rassembler en comité afin de créer des petits gouvernements locaux. Bon, bah, vu qu'on est tous les artisans, on va se rassembler, et puis on va ériger toutes les lois qui régissent aux régions. Alors qu'il y a probablement un seigneur et un daimyo qui sont là pour ça, mais non, ils vont quand même le faire. Donc là, clairement, on arrive sur un pays complètement déstructuré. Et du coup, pour cette émission, je vais m'arrêter là, parce que la prochaine partie, je veux faire quelque chose d'un petit peu plus conséquent, notamment sur un personnage, je parais que vous allez le deviner tout seul, puisqu'on arrive dans les années 1500.
Serait-il possible que ce soit Nobunaga ?
C'est bien lui dont je veux faire une aparté un petit peu plus forte. Bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute.
Bah merci à toi, Xavier. C'était très instructif.
Donc tout de suite, on va pouvoir retrouver Victoria pour notre deuxième pause musicale.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 dans l'émission Radio Nippon. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de Alien Liberty International, ou en plus court LAI, un groupe tout jeune ayant débuté cette année. Au style très funk, agrémenté de parties rap, leur style se détache beaucoup de ce qu'on peut trouver, notamment sur la scène de l'anisong. Et c'est justement là que certains ont déjà pu les entendre, puisqu'ils assurent l'opening de l'anime Beastars. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à vous y intéresser, notamment pour son monde ressemblant à celui de Zootopie. Les animaux herbivores et carnivores cohabitent ainsi dans l'école Cheriton, où cependant l'assassinat d'un herbivore va raviver les craintes de ces derniers. Écoutons donc Wildside par LAI. Sur ce, bonne écoute, et à dans 2 semaines, même lieu, même heure, sur Radio Nippon. Ouais.
It is a wonderful my life. Please could you kiss my name when I'm
Radio G.